RCF. Réfléchir sur RCF au sacrement des malades, et nous avons regardé ce qu'il en était dit dans différents textes de l'Écriture, de l'Ancien, du Nouveau Testament lors de la précédente émission. Nous allons nous arrêter pour commencer cette seconde émission sur un texte un peu central, un texte de Jacques. On est au chapitre 5, les versets 14 à 16, qui fondent un peu la réflexion sur cette question de la pratique de l'onction des malades. Nous allons donc en parler avec le père Sébastien Guizioux. Alors, est-ce que vous voulez nous dire en quoi, d'une manière un peu générale, tout d'abord, ce texte est central ?
En affirmant que l'onction des malades pratiquée dans l'Église se rattache au texte de la lettre de Saint Jacques au chapitre 5, versets 14 à 15, le Concile de Trente en fait n'a pas innové, car ce lien a toujours été admis dans l'Église, alors même que la signification reconnue à l'onction n'a pas toujours été identique. Alors peut-être qu'on peut lire ces deux versets qu'on va essayer de regarder de plus près. « L'un de vous est-il malade ? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie, après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient, le Seigneur le relèvera et, s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. »
Alors on va regarder de près ce texte, mais peut-être qu'il est intéressant de dire pour commencer... Quel est le sens profond de ces paroles ?
Je crois qu'on doit dire déjà et avouer qu'il y a une difficulté déjà dans ce texte qui réside dans la signification de deux verbes qui sont utilisés dans ces versets. Il s'agit du verbe, alors je vais les dire en grec, les verbes « sozei » et « egeirein ». En fait, le premier c'est « sauver » et le deuxième c'est « relever ». Je redis, la prière de la foi sauvera le patient, sozei, sauvera, le Seigneur le relèvera, egeirei, et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Alors, il y a une difficulté, c'est parce que dans la signification des deux verbes, l'un et l'autre peuvent désigner soit le rétablissement dans la santé du malade, soit le salut eschatologique. Et les deux verbes sont souvent utilisés l'un pour l'autre. Alors, évidemment, ça crée une difficulté. Alors, peut-être qu'on va essayer de regarder ça de plus près.
Alors, regardons d'abord ce premier verbe, hein, je le redis en grec, « sozein », ce qu'il en est du côté de l'Ancien Testament quand il est utilisé.
Ce verbe connote l'idée d'un don nouveau de vie qui épargne aux patients la mort physique et la descente au séjour des morts. Et ce sens se retrouve dans le Nouveau Testament aussi, par exemple en Matthieu, chapitre 8, verset 25, que je cite, « Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent, donc Jésus, en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Ou en Luc, chapitre 8, verset 36, « Les témoins leur annoncèrent comment le possédé avait été sauvé. » Hein, vous vous rappelez, c'est l'histoire du démon nommé Légion et de la chute des porcs depuis la falaise.
Donc on voit dans cette première acception de ce verbe « sozein », en fait, ce que vous disiez, la notion de rétablissement dans la santé, mais on va trouver dans d'autres passages de l'Écriture bien une autre signification à ce verbe que vous avez employé, c'est la question du salut eschatologique.
Et c'est le sens qu'il a dans les autres passages de l'Épître de Jacques où il est employé. On peut citer par exemple le verset 21 du chapitre 1 de la lettre de Jacques. « C'est pourquoi vous devez rejeter tout ce qui salit, tout ce qu'il vous reste de méchanceté, pour accueillir humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. » On voit bien qu'ici, c'est un salut spirituel. Ou alors le verset 14 du chapitre 2. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Ou encore le verset 12 du chapitre 4. Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Et encore, le verset 20 du chapitre 5 de la lettre de Jacques. Alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait se sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés.
Goûtez et voyez comme Dieu est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Goûtez et voyez comme Dieu est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Je bénirai
sur RCF la suite de votre émission Une fois pour tous consacrée au sacrement des malades avec le père Sébastien Guizou. Et nous parlons toujours de verbes importants pour comprendre le sens de ce sacrement. Deuxième verbe, toujours en grec, egeirein, et qui lui signifie deux choses. Et tout d'abord, aborde la question du rétablissement du malade.
Oui, ce verbe egeirein, donc qui veut dire être relevé. Alors, ça désigne en effet le rétablissement du malade. Par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 30 à 31, vous rappelez, c'est la guérison de la belle-mère de Simon. La belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approche d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Ou bien on peut lire aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 5, « Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire « tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « lève-toi et marche » ?» Oui, bien ici, il s'agit bien de la capacité physique hein, d'être guéri, d'être relevé. Et puis, il y a l'autre acception, c'est la résurrection d'un mort. Voilà. En Matthieu 9, verset 25, « Mais on se moquait de lui, de Jésus. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva, voilà, qui ressuscita. » De même, Luc, chapitre 7, verset 14, « Puis s'approchant, il toucha le cercueil, donc Jésus, et les porteurs s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. »
Voilà, à nouveau la question de la résurrection d'un mort, mais ce verbe « egeirein » est aussi utilisé pour parler de la résurrection du Christ.
En effet, on dit souvent d'ailleurs que Jésus s'est relevé d'entre les morts. C'est une expression qui est utilisée souvent dans les évangiles. Alors on peut citer simplement Matthieu, chapitre 17, versets 22-23. « Comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Egeirein. Marc, chapitre 16, verset 6. « Mais il leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus le crucifié. » Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. De même, dans l'évangile de Jean ou des Actes, ou Paul, ce même verbe aussi est utilisé donc, pour dire que le Christ est ressuscité, il s'est levé ou relevé d'entre les morts. C'est ce verbe egeirein.
Alors voilà, on a fait un parcours autour de ces deux verbes. On voit bien qu'ils peuvent avoir des sens différents. Qu'est-ce qu'on va dire pour avancer, pour comprendre davantage?
Alors, dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 5, verset 15, le sens du mot sozein et egeirein doit être tranché, on pourrait dire en fonction du contexte général de l'épître et du contexte immédiat du passage où ces mots sont insérés. Alors, on ne connaît pas de façon certaine la date, l'origine de l'épître de Jacques. Mais les traits judéo-chrétiens qu'elle présente nous indiquent qu'elle fut destinée, sans aucun doute, à des chrétiens gardant des relations avec la synagogue et peut-être également à des juifs dont on espérait la conversion au christianisme. Alors si l'épître appartient au courant judéo-chrétien, les deux verbes « sozein » et « egeirein », donc « sauver » et « relever », pourraient bien désigner, en fin de compte, et c'est ça qu'on cherche à savoir, le retour du malade à la santé. Car dans un tel milieu, la prière des anciens pour la guérison du malade et l'usage de l'huile comme médicament n'a rien d'insolite. Les écrits rabbiniques donnent des exemples de prières, de rabbis d'ailleurs, sur les malades. Et par ailleurs, l'huile appartenait à la pharmacopée du monde juif. Donc une analyse du texte structural amène à comprendre les deux verbes dans le sens plutôt d'un retour à la santé. Mais quelle est la signification de cette guérison ? Compte tenu du fait que dans notre texte, elle est associée au pardon des péchés, c'est la question qu'on peut se poser.
Et on va donc, pour aller plus loin et puis entrer aussi dans la compréhension maintenant, eh bien regarder le contexte hein, dans lequel cette lettre de Saint-Jacques a été écrite. Et donc, on est dans une perspective du royaume qui est tout proche, de la venue du royaume qui est tout proche.
En effet, pour comprendre, faut replacer dans le contexte de l'ensemble de l'épître qui a été écrite dans un milieu où ne se posait pas avec acuité le problème du retard de la parousie, c'est-à-dire de la venue du Christ à la fin des temps. Et c'est dans la perspective de la proximité du royaume plutôt qu'il faut élucider la signification de la guérison corporelle. Alors cette hypothèse permettrait de justifier pourquoi on trouve dans le texte de l'Épître une référence au miracle messianique rapporté par les évangélistes. Il s'agit de cette expression que j'ai citée tout à l'heure, « la prière de la foi sauvera le patient », qui renvoie à la formule évangélique « ta foi t'a sauvé », qui est employée plusieurs fois à propos des guérisons miraculeuses. Par exemple, en Matthieu 9, verset 22, Jésus se retourna, il la vit et lui dit « confiance ma fille, ta foi t'a sauvé ». Et la femme fut sauvée à l'heure même. Dans les évangiles, les guérisons faites par le Christ sont en rapport étroit avec l'annonce de la venue du règne de Dieu.
Et il faut aussi rappeler que dans le contexte du Nouveau Testament, eh bien, le péché et la maladie étaient souvent liés en fait.
Oui, dans le contexte culturel du Nouveau Testament, la maladie appartient à la situation de l'homme pécheur. Alors malgré ce qu'on a pu dire à propos du chapitre 9 de Saint Jean, c'est la guérison de l'aveugle-né. Justement, Jésus va renverser ça. Il va renverser cette compréhension que le péché est dû à la maladie. La maladie est considérée comme un signe de la puissance de Satan sur les hommes. Voilà, c'est ça un petit peu qui est le fond. Mais la guérison des malades fait partie de la bonne nouvelle du salut, et c'est ça qui est premier. Et le royaume de Dieu n'est pas seulement la délivrance du péché, mais aussi de toute infirmité.
Et on le trouve, par exemple, si on va chercher dans Matthieu au chapitre 11.
Dans les versets 2 à 6, on peut lire ces versets. « Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Et donc c'est intéressant, parce que l'annonce de la venue du royaume, elle est liée aussi à la guérison, dans tout ce que dit Jésus.
On voit que donc, finalement, dans les évangiles, l'annonce de la venue imminente du royaume, et c'est ce que vous venez de dire, pour ceux qui l'acceptent, eh bien, s'accompagne non seulement du pardon des péchés, mais aussi des guérisons. Les deux vont ensemble.
Oui, l'un et l'autre signifient que l'avènement du règne est si proche qu'il est déjà en action pour ceux qui l'attendent.
Et ce qui veut dire que quand Jacques écrit cette épître, eh bien, les guérisons ont une signification voisine de celle que l'on trouve dans l'Évangile.
Oui, en effet, situé dans le contexte où, pensait-il, le royaume allait s'établir pleinement de manière imminente. Et de ce point de vue, le texte de l'Épître se rattache aux deux péricopes de Matthieu chapitre 10 et de Marc chapitre 6. Et elles indiquent que du vivant de Jésus, les 12 proclamèrent la venue prochaine du royaume et accréditèrent cette annonce en guérissant les malades qui la recevaient avec confiance. Et le récit de Marc même précise que les apôtres firent usage de l'huile.
Vivante de son Église.
Sur RCF, votre émission Une fois pour tous avec le Père Sébastien Guizioud, nous parlons du sacrement des malades. Nous allons maintenant regarder ce rite, ce geste de l'imposition des mains sur les malades que l'on retrouve dans cet épître d'ailleurs de Jacques. On peut peut-être le citer à nouveau ce verset.
Alors je relis ce verset. « L'un de vous est-il malade ? Qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie, après avoir fait sur lui, une onction d'huile au nom du Seigneur. »
Et on va retrouver aussi référence à ce geste dans l'Évangile.
Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, versets 16 à 20, je les lis. « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et donc, oui, les signes, c'était les signes des guérisons, bien sûr, aussi.
On trouve aussi trace de ce geste de l'imposition des mains dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3.
Pierre dit à l'infirme, « Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D'un bond, il fut debout et il marchait. Il entra avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu, et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple, et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. On voit bien que après la résurrection, en fait, les apôtres continuent l'œuvre de l'annonce du salut qui se manifeste aussi par des guérisons, comme cette guérison de l'infirme de la belle porte du temple.
On peut dire que la parole, eh bien, est confirmée par ces actes de guérison.
Voilà, exactement. Et on peut lire aussi en Actes chapitre 14, versets 9 à 10, « Il y avait là assis un homme perclus des pieds, impotent de naissance, il n'avait jamais marché. Il écouta Paul discourir. Celui-ci, arrêtant sur lui son regard et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Il se dressa d'un bond, il marchait. Donc vous voyez que ces deux derniers passages bibliques attestent aussi qu'après l'ascension, les disciples ont continué à confirmer leur prédication par des guérisons. Et dans l'épître de Jacques, l'intervention des anciens auprès du malade avait un sens équivalent à celui des guérisons opérées par le Christ ou par les disciples en son nom. Elle n'était donc ni une démarche d'ordre médical, ni une démarche caritative en faveur des membres souffrants de la communauté chrétienne.
On peut donc dire que la guérison corporelle étant liée au pardon des péchés, l'intervention des anciens auprès des moyens, des malades était un témoignage en fait.
Oui, un témoignage de façon intangible d'ailleurs que le salut eschatologique était déjà arrivé pour ceux qui acceptaient l'annonce de la venue prochaine du Seigneur. Ce salut était synonyme de libération de l'homme de ses fautes et de libération de la fragilité de sa condition.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette émission pour cette semaine. Nous continuerons de parler du sacrement des malades dans une prochaine émission et nous irons regarder, eh bien, à travers l'histoire, la tradition liturgique, comment petit à petit il s'est mis en place. Merci beaucoup et à très bientôt.